revenu. Après qu'on prêche une fois, on se demande si les gens vont revenir. Mais vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes là. Alors, je vous invite à retrouver dans vos Bibles Habacuc chapitre 2. Alors, j'espère que vous avez peut-être mis un marque-page ou quelque chose. Comme ça, vous avez pu trouver plus rapidement cette fois-ci le chapitre en question. Mais j'ai intitulé ce deuxième chapitre que nous allons commencer ce soir et terminer, Dieu voulant, demain matin, avec le troisième chapitre, la grâce dans l'angoisse. Bon, ça rime pour nous aider à nous rappeler un peu, mais pourquoi la grâce dans l'angoisse? Vous voyez qu'à chaque fois, il y a ces deux choses qui nous semblent opposées, mais qui sont en fait ensemble dans la vie du prophète. Il adore Dieu dans le tumulte. Et là, on voit de la grâce, pas qui remplace l'angoisse, mais dans l'angoisse. Ça, c'est la vie du chrétien. Et l'angoisse qu'il a ressentie dans le premier chapitre, en fait, n'est pas enlevée dans ce chapitre. Elle demeure. Et de plus, ce qui ressort, vous l'avez peut-être noté en le lisant, de ce chapitre, ce sont les cinq malheurs qui sont prononcés sur le peuple de Babylone. Dieu dit en somme dans ce chapitre, « Je vais les juger, mais pas encore. » Alors, pour nous donner encore l'idée de ce que Dieu est en train de faire, c'est imaginer que nous, en tant que chrétiens, on allait dans la prière, on disait à Dieu, regarde ce qui se passe dans notre pays, la France, regarde l'injustice, regarde l'immoralité, regarde l'orgueil qui existe. Seigneur, interviens, fais quelque chose, montre ta sainteté. Et Dieu dit, d'accord, je vais intervenir et je vais envoyer Daesh pour juger la France. Il y aura des décapitations, il y aura des meurtres, la vie sera pire qu'elle est maintenant, mais je le fais pour juger la France. Je serais tenté de dire, Seigneur, n'interviens pas alors. Et c'est exactement ce qui se passe pour Habacuc. Il voit ce qui se passe dans sa société, il dit Dieu intervient, et Dieu dit d'accord, j'interviens, j'envoie Babylone pour juger mon peuple. Et c'est ça qui soulève ces questions donc dans le cœur de ce prophète. Dans ce chapitre, Dieu répond que effectivement, il va juger ses ennemis, il va juger Babylone. C'est donc un chapitre de jugement contre les ennemis de Dieu, mais aussi d'angoisse pour les fidèles qui doivent attendre ce jour. Il y a des promesses dans ce chapitre qui ne sont même pas encore arrivées. Mais ce chapitre ne contient pas que le jugement et que l'angoisse. C'est un peu comme une peinture qui est peinte, vous avez peut-être vu ces peintures avant, de couleurs très sombres, sauf dans une partie de la peinture, où on voit des rayons de soleil qui descendent, c'est comme une explosion de lumière. Et nos yeux sont attirés tout de suite vers cet endroit dans la peinture. Et ici, c'est la même chose. Dans ce chapitre, nous avons, et il est écrit avec des traits grisâtres et mornes, mais nous trouvons quand même une explosion de lumière, une grâce qui ressort, qui est entourée par tant d'angoisse. Alors, nous allons étudier ce chapitre en trois parties. D'abord, avant la réponse divine, après la réponse divine, et puis troisièmement, demain nous allons voir, donc, après la réponse divine. Donc, commençons donc par une visite de la tour de garde où se trouve le prophète, et nous allons voir ce qui se passe avant que Dieu lui réponde. Alors, rappelons-nous que le chapitre précédent a terminé avec un point d'interrogation. Avec Habacuc, qui a une question qu'il pose à Dieu et il n'a pas encore la réponse. Il dit, verset 17, chapitre 1, « Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ? Est-ce que ça va continuer sans fin, Seigneur ? C'est un peu ça sa dernière question. Et il n'a pas encore de réponse de la part de Dieu à ces questions qui sont d'une grande importance. Il a prié et la première réponse de Dieu était, pour dire la moindre des choses, surprenante. Cette réponse divine a suscité d'autres questions qu'il a posées tout en confessant sa foi en Dieu. Mais ayant posé ces questions, que va-t-il faire ? Et je vous demande de vous d'imaginer vous-même dans cette même situation. Vous avez prié pour quelque chose ? Et puis Dieu agit d'une certaine façon qui est surprenante, qui rend votre vie plus difficile qu'avant. Et donc, vous allez de nouveau vers Dieu dans la prière, vous dites, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, je vois ta main, mais ta main, je ne la comprends pas. Et puis vous attendez. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous trouvons le prophète dans l'attente. Et Habacuc emploie de lui-même, il parle de lui-même, une terminologie militaire de sentinelle. Il dit, le premier verset, « Je me tenais sur la tour, je veillais. » Il veille, il reste attentif. Ce verbe « veiller » souvent traduit avec le mot en français « sentinelle ». C'est-à-dire, au lieu de dire « celui qui veille », nous trouvons souvent dans nos Bibles françaises « la sentinelle ». C'est traduit aussi par épier. Le psaume 37-32 dit « Le méchant épie le juste ». Donc il y a quelqu'un qui est là comme sentinelle, qui épie, qui regarde dans sa tour de garde. Et sur quoi veille-t-il ? Et nous voyons qu'il y a deux choses sur lesquelles il veille. Est-ce que vous pouvez les retrouver ? Alors d'abord, il dit, je mets ça dans la première personne, « Je veille sur ce qu'il me dira. » Vous voyez, c'est facile, même les enfants peuvent le repérer. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Alors, il regarde vers le ciel. Il attend la réponse de Dieu. C'est intéressant parce qu'il y avait des tours de garde dans ces pays qui sont entourés par des murailles. Les tours de garde, c'est pour veiller, c'est pour épier l'ennemi qui approche. Mais lui, il est là pour regarder, pour rechercher Dieu, hein, sur ce que Dieu va dire à ses questions. Et pour apprécier le fait que Habacuc regarde vers Dieu seul pour la réponse à ses problèmes, il faut comprendre ce qui était la réaction presque universelle de son époque. Parce que sinon, on ne va pas trop l'apprécier. Mais que faisaient tous les autres dans sa ville de Jérusalem ? Eh bien, pour cela, je vous demande de trouver Ésaïe chapitre 30. Alors, il faut reculer un peu. Ésaïe chapitre 30 et le premier verset. Ésaïe 30 et verset 1. Et nous sommes à peu près dans la même époque, hein, le même problème en tout cas. Il dit, Ésaïe 30, verset 1, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent où ? En Égypte, sans me consulter. » Pourquoi est-ce qu'ils descendent en Égypte ? Pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ailleurs, la Bible dit parle de chercher un abri sous l'ombre de l'Éternel, mais eux, ils vont chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ça, c'est l'autre nation ennemie de Babylone qui est la plus forte. Donc, une petite nation, c'est logique, c'est humain. C'est politiquement correct d'aller faire des alliances avec Égypte pour qu'Égypte puisse nous aider. Regardez le verset 3. Dieu dit « La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Regardez le verset 7. Il redit presque la même chose. « Le secours de l'Égypte n'est que vanité néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. » Mais à chaque fois, vous trouvez dans plusieurs prophéties, le peuple d'Israël rentrait vers l'Égypte, il disait, c'est notre seul espoir, c'est notre dernière chance. Regardez le chapitre 31, Ésaïe 31, et encore le premier verset, il revient au même sujet, il dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. » Mais notez cette phrase, « qui ne regardent pas vers où ?» Le Saint d'Israël. Vous vous rappelez au chapitre 1, Habakkuk a dit, « Seigneur, tu es mon Saint. » Et là, il regarde, il monte dans sa tour de garde, et il veille, il épile, et la sentinelle qui regarde seul, ou vers Dieu seul. Il dit ici, « Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. » Et regardez le verset 3, Ésaïe 31, 3, « L'Égyptien est l'homme, et homme et non pas Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. » Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. C'est-à-dire le protecteur et le protégé périront ensemble. Alors il y avait les prophètes, et Jérémie, ça revient plusieurs fois, qui n'ont cessé d'avertir le peuple en leur disant de ne pas se confier en Égypte. C'était les Nations Unies de l'époque. Mais ce qui est intéressant, le peuple a continué obstinément à espérer qu'Égypte viendrait les secourir. Et Lamentations de Jérémie qui est écrite, sont écrites après la destruction de Jérusalem. Donc là, nous sommes après Habakkuk, après que Babylone arrive. Trois fois Babylone est arrivée. Chaque fois, ils espéraient quand même en Égypte. Finalement, Babylone arrive, détruit tout, enlève presque tout le monde. Et écoutez ce qu'il dit dans Lamentations 4, 17. Nos yeux se consument encore à implorer de l'aide, mais c'est en vain. De nos postes de guet, nous attendions une nation. Et la nation, c'est qui ? C'est Égypte encore. Qui ne nous a pas secouru. Et il utilise le même mot ici que nous avons vu en Habakkuk 2, verset 1, où le prophète regarde, il épie, il veille vers ce que l'Éternel lui dira. Nous voyons ici que l'homme sait garder l'espoir. Il sait garder l'espoir, c'est intéressant. Et il sait veiller, il sait attendre l'aide. Mais l'homme dans son péché est prêt à tout croire, sauf la parole de Dieu, et à tout espérer, sauf en Dieu lui-même. J'ai entendu juste la semaine dernière le témoignage de Stéphane Essel, c'est comme ça son nom, qui a écrit « Indignez-vous ». Il est mort maintenant, mais il était prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit qu'après que la guerre a commencé, il a été mobilisé, il a été envoyé vers le front. Il a dit, on est tous convaincus que Hitler était un phénomène qui allait vite passer. Ça, c'est après la bataille de France, la France avait perdu. Ils étaient quand même convaincus que ça ne pouvait pas durer. Et l'homme a cette capacité d'espérer, de croire que oui, tout, quelque chose va se passer. C'est même loué, hein. Il faut avoir l'espérance, il faut être positif, il faut croire que les choses vont aller mieux le lendemain, mais tout dans tout sauf Dieu. Mais, il dit, pour revenir à notre texte, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais, pas pour voir si Égypte allait venir nous secourir, mais je veillais sur ce que l'Éternel me dirait. Quand les temps sont difficiles, c'est vers la parole de Dieu que nous devons nous tourner. Mais une deuxième chose sur laquelle il veille, avant donc que Dieu lui répond, il dit que je veille aussi sur ce que je lui dirai. Il pense aussi, je trouve ça très intéressant, à la réponse qu'il fera lorsque Dieu répond. Regardez le verset, Habakkuk 2, 1. je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ça c'est une chose, et je veillais sur ce que je répliquerai après ma plainte, sur ce que je moi-même répliquerai. Alors cette pensée semble tellement étrange, on se demande mais pourquoi il veillerait sur cela, qu'il y a même certaines traductions comme la Bible en français courant et la parole de vie qui ont émendé le texte pour suggérer que Habacuc attend uniquement ce que Dieu va répliquer après sa plainte. Mais selon tout ce que j'ai lu, pardon, j'ai mal dit, tu peux me corriger, hein. Mais selon tout ce que j'ai vu, il n'y a pas de base textuelle pour cette émendation. Il parle bien de ce qu'il va lui-même répliquer suite à sa réponse, suite à la réponse que Dieu va lui donner. Donc nous voyons ici une deuxième nuance au verbe de veiller. Ça peut vouloir dire plus qu'être en éveil, qu'être vigilant, qu'être de garde. Si on dit à quelqu'un, veille sur ta bouche, on attend plus qu'il regarde attentivement ce qu'ils vont dire, par curiosité par exemple. On veut qu'ils prennent soin de ce qu'ils vont dire ou ne pas dire. Et en français, veiller à ou veiller sur quelque chose veut dire prendre soin, s'en occuper attentivement. Et même le mot hébreu a aussi ce deuxième sens de prendre soin. Par exemple, en Proverbe 31 où il dit « La femme vertueuse, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. » Cette même idée de veiller veut dire plus que de regarder attentivement, ça veut dire prendre soin. Et nous voyons ici une attention qui est donnée à ce qui sera sa réponse envers Dieu. Il monte dans la tour pour rencontrer l'Éternel. Il est attentif non seulement à ce que Dieu lui dira, mais il veille aussi, il se prépare en avance, si vous voulez, à ce qu'il va répliquer à Dieu, ce qu'il va dire en réponse à Dieu. Il veille, on peut le dire comme ça, à ce que sa réponse envers Dieu soit en phase avec ce que Dieu lui dira. C'est-à-dire, quand on a vu chapitre 1 que la réponse qu'il a eue envers Dieu, on voit que ce n'était pas naturellement qu'il a réfléchi à sa réponse. En fait, ce ne sont pas des réponses naturelles, mais des réponses spirituelles. Et rien de spirituel se passe naturellement. Il faut veiller à ces choses. Dans un sens, Habacuc se sent libre de tout dire à l'Éternel, mais dans un autre sens, il veille attentivement à ce qu'il dit et à la façon dont il le dit. Ecclésiaste 4, et verset 17 et 5, verset 1, dit ceci. Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas, qu'ils agissent mal. Ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre, par conséquent, mesure tes paroles. Alors ça, c'est une idée intéressante. Est-ce que nous veillons sur ce que nous disons à Dieu? Est-ce que Dieu, c'est-à-dire sa personne, son caractère, sa majesté, sa sainteté, est un facteur majeur dans notre manière de lui adresser nos prières et même nos louanges? Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Mais Dieu nous invite dans sa présence. C'est ça l'adoration. Nous sommes invités dans sa présence. Quand Habacuc entre dans cette tour de garde, c'est pour entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, c'est un privilège qui devrait nous émerveiller et nous remplir d'une soumission humble et nous pousser à veiller sur nous-mêmes. Ecclésiaste 4, 17 dit littéralement « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu ». C'est l'idée de veiller sur soi-même, de faire preuve de retenue personnelle. C'est un peu comme Moïse, rappelé à enlever ses sandales devant le buisson ardent, Josué a fait le même. Nous devons être conscients que quand nous venons devant Dieu, nous venons dans un lieu très saint. Alors, c'est souvent le cas que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons avec une attitude qui ne réfléchit même pas à Dieu. L'adoration est souvent même conçue comme une expérience à laquelle l'homme est au centre. L'adoration, pour certains, c'est quelque chose que je fais et que je ressens. Une bonne adoration, c'est quand j'ai bien senti l'adoration. Hébreux 13 dit par lui, ça parle de Jésus-Christ, « Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » C'est quelque chose, nous voyons que la louange, comme la prière, c'est quelque chose en fait que nous offrons à qui? C'est quelque chose que nous offrons à Dieu. Écoutez Éphésiens 1, verset 3, je l'ai ici, « Et dites-moi qui est béni ?» Ça dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. » Alors, qui est béni dans ce verset? Les deux, n'est-ce pas? C'est pas très difficile. Vous avez peur de répondre. C'est pas un piège. Nous sommes tous les deux bénis. Alors, quand le verset dit « Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis », nous comprenons qui est l'objet de la bénédiction. C'est nous. Mais l'hymne d'Éphésiens 1 commence avec quelqu'un d'autre comme l'objet d'une bénédiction. Et c'est qui? Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but donc de notre approche à Dieu, et l'adoration c'est venir devant Dieu pour célébrer sa gloire, le but de l'adoration est donc que Dieu soit béni de nouveau. Quand nous allons adorer, c'est à cela qu'il faut penser, que Dieu soit béni de nouveau. Nous voulons bénir Dieu, nous voulons qu'il soit béni. L'adoration est donc une offrande de louange offerte à Dieu. Dieu me donne plein de bénédictions, ça c'est sûr si nous sommes chrétiens. Nous sommes très bénis. Mais ça c'est pas l'adoration. L'adoration n'est pas quand Dieu me bénit. L'adoration c'est quand je renvoie à Dieu mes louanges. L'adoration se passe quand Dieu, non pas nous, est l'objet de la bénédiction. Parfois, nous quittons le culte et nous disons « J'étais très béni par ce culte. » Alors, c'est très bien de le dire. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire. Ça fait partie des bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Le culte est censé nous bénir et nous nourrir aussi. Mais à la fin du culte, qui devrait être béni par l'adoration? À la fin, c'est avant tout Dieu qui doit être béni par notre adoration. Et l'adoration est souvent conçue de nos jours comme une expérience existentielle de l'homme, très intime, très personnelle, qui doit me bénir à mon fort intérieur. La louange est trop souvent égocentrique au lieu de théocentrique. On parle d'une louange puissante, mais puissante pour qui? Puissante pour moi. Pas pour Dieu. Mais Habacuc, nous voyons ici, il désire veiller à ce qu'il dit à Dieu, que ça soit en accord avec ce que Dieu lui dit. Dieu, il attend la réponse de Dieu et il veille sur sa réponse en réponse à Dieu. Que ça soit en accord avec la révélation de Dieu. Et nous trouvons, ça le suggère, mais nous trouvons ailleurs un principe directeur, c'est que le caractère de Dieu doit régir notre adoration. Nous devons l'adorer d'une façon qui soit conforme à ce qu'il dit de lui-même. Par exemple, Hébreux 12, 28 et 29 nous dit « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte » dont nous sommes dans le contexte de l'adoration, de la prière, des chants, etc., qui m'est agréable? Non, c'est pas ça. Un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors ça, c'est bien le Nouveau Testament que nous lisons ici. Et notez bien le lien entre le culte rendu à Dieu et son caractère. Il dit « car », nous devons lui rendre un culte ainsi, « car Dieu est ainsi ». Le souci donc n'est pas de conformer notre adoration à ce siècle, mais au caractère de Dieu. Il est un feu dévorant. Donc notre adoration doit être caractérisée par la piété, par la crainte, même quand nous allons à lui dans la prière tout seul. Encore un verset qui fait ce lien, c'est dans 1 Corinthiens 14, versets 31 à 33, « car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et tout soit exhorté. Les esprits des prophètes doivent être soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Ici, il parle très spécifiquement du culte qu'on rend ensemble le dimanche matin. Et l'argument pour une gérance contrôlée et ordonnée des réunions est basé sur le caractère ordonné et paisible de Dieu. Dieu est tel. Il est un Dieu de paix. Donc, nos réunions doivent être contrôlées, ordonnées, paisibles. C'est en somme ce qu'il dit. Et donc, nous voyons ici, pour revenir à Habacuc, qu'Habacuc n'est pas seulement soucieux que Dieu répond à sa prière, mais il est aussi soucieux qu'il aura la bonne réponse envers Dieu. Il monte dans la tour pour rencontrer l'Éternel. Il est attentif, non seulement à ce que Dieu lui dira, mais à ce qu'il dira par la suite. Est-ce que vous avez jamais demandé à quelqu'un de prier pour que vous ayez la bonne réponse à ce que Dieu fera dans votre vie? On souvent dit, mais priez que Dieu m'aide, qu'il me guérisse, qu'il me fasse ainsi. On pourrait demander, priez pour moi, que Dieu m'aide à avoir la bonne réponse envers sa volonté, ses œuvres dans ma vie. Ce serait une bonne chose. Donnons-nous à Dieu le respect, l'amour, la confiance qu'il mérite. Alors nous tournons maintenant vers la réponse divine de Dieu. Et ça sera la dernière intervention divine de Dieu. Donc si vous suivez tout ce livre, nous avons Habacuc qui prie, Dieu qui répond, Habacuc maintenant qui parle au début de chapitre 2, Dieu qui répond, c'est le reste de chapitre 2, et puis Habacuc à la fin qui prend la parole, c'est tout le chapitre 3. Donc, voici la dernière intervention de Dieu, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit. Et nous voyons que l'Éternel va répondre. Nous voyons que Dieu prend sa prière et ses questions sérieusement. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, plusieurs choses à noter par rapport à cette réponse divine. Et la première chose, c'est l'accomplissement de la prophétie est certain. L'accomplissement de la prophétie est certain. L'accomplissement est certain. Ce fait est souligné par le début et la fin. Regardez verset 3. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » On ne peut pas trouver dans la Bible une plus claire démonstration de la confiance qu'a la Bible de ses propres affirmations. Alors, soit vous devez croire à la Bible, soit vous devez dire que la Bible, c'est le plus grand mensonge qui existe. Parce que la Bible ne fait pas de suggestions, la Bible ne dit pas « peut-être ceci arrivera, je ne suis pas sûr ». La Bible assume une autorité complète et elle dit « elle arrivera, ceci arrivera, elle s'accomplira certainement ». Et puis tout à la fin, regardez le verset 20, « l'Éternel est dans son Saint-Temple ». J'aime bien cette fin. « Que toute la terre fasse silence devant lui. » Imaginez la mère qui a marre des chicaneries de ses enfants et criant, crie « silence !» J'ai décidé. C'est la fin de la discussion. Vous n'avez plus le droit à rien dire. C'est Dieu qui dit ça ici. Silence. Et nous voyons qu'il a le dernier mot, si vous voulez. Plus de contestation, protestation, ni manifestation. On ne peut pas faire grève, on ne peut pas dire non, il faut recompter, il faut refaire. Il parle, c'est le silence absolu. Ça, c'est la confiance que nous pouvons avoir, d'ailleurs, dans toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Et nous voyons donc qu'il dit que l'orgueilleux sera maudit. C'est le thème de cette prophétie. C'est un peu le résumé de ce chapitre. Dieu va maudire le pécheur. Il va maudire le pécheur. Et nous devons avoir une place dans notre théologie pour la malédiction divine qui tombe sur les gens. Et il nous donne d'abord une description du maudit, c'est-à-dire celui qui sera maudit. Et pour voir le fil de la pensée, je vous demande de sauter cette petite phrase-là que j'ai mis en relief pour voir de qui il parle. « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. » Alors, jusqu'ici, ce n'est que description. Vous avez noté? Il n'y a pas encore d'annonce. On ne sait pas encore ce que Dieu va faire. Alors, ce qui suivra est bien sûr une malédiction. On le sait, on l'a lu tout à l'heure. Mais le fait que Dieu commence avec une description du maudit est important pour établir la justice de Dieu. C'est-à-dire que la justice de Dieu n'est pas aléatoire. Tout comme on doit démontrer la culpabilité d'une personne aujourd'hui devant les tribunaux avant de pouvoir les condamner, Dieu étale le péché des Babyloniens avant de proclamer sa condamnation. Regardez de nouveau la question que Habacuc avait posée, chapitre 1, verset 13. Il avait dit à Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et tairais-tu ? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. » C'est-à-dire, pourquoi regarderais-tu les perfides et tairais-tu en même temps? Et c'est la grande question de cette deuxième intervention d'Habacuc au chapitre 1. Pourquoi gardes-tu le silence? Et il y a ce terme de silence. On a vu que ça revient à deux reprises. Alors ça, ici, c'est la réponse de Dieu. La première partie d'Habacuc 2, verset 4 et verset 5, nous donne ce que Dieu voit. Et à partir du verset 5, nous voyons que Dieu ne reste pas silencieux. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous qui sommes en Christ, que quand Dieu voit l'ennemi, quand Dieu voit le pécheur, quand Dieu voit le rebelle, il ne fait pas qu'une observation et puis il ne dit rien. Il ne reste pas silencieux. Il parle. Il ne garde pas à toujours le silence. Alors, est-ce que vous savez qu'il n'y aura aucune injustice qui sera oubliée par Dieu? Vous avez peut-être vécu quelque chose dans votre enfance. Aucune injustice ne sera repoussée et ignoré par Dieu. C'est pour ça qu'on peut remettre ces choses à Dieu. Parce qu'il a dit, la vengeance est à moi. Nous n'avons pas besoin de tirer vengeance nous-mêmes parce que Dieu va tirer vengeance sur tous les péchés. La colère de Dieu contre chaque péché tombe soit sur Christ, soit sur le pécheur. Alors, quelle est donc la réponse de Dieu envers ce qu'il voit? Nous voyons, deuxièmement, une description de la malédiction. Celui qui est maudit, on a vu qu'il est. Mais il nous dit après, il nous donne après une description de la malédiction. Regardez le verset 6. « Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme. On dira malheur. Et puis, les versets 6 à 19 nous donnent une série de 5 oracles de malédictions prononcées sur Babylone. Alors, nous n'avons pas le temps de regarder ces 5 oracles, ce serait intéressant. Mais je veux noter les deux choses que j'ai mis ici derrière moi. Et la première, c'est que la malédiction sera inévitable. On trouve un peu le même thème de la certitude de la prophétie que nous avons déjà vu, mais ici, ça parle spécifiquement de la malédiction. Regardez le verset 11. Et regardez l'image que Dieu crée devant nos yeux ici. Car la pierre crie du muraille, du milieu du muraille, de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Alors, captez un peu l'image dans vos esprits. La pierre crie du milieu de la muraille et il y a un bois aussi qui lie la charpente, qui lui répond. Alors, nous sommes devant un édifice qui est déjà construit, n'est-ce pas ? Déjà construit, terminé, c'est censé être solide. On regarde ce qu'ils ont fait, on dirait qu'ils ont réussi. Mais non, la pierre pourtant bien fixée dans la muraille n'a pas eu son dernier mot. Et le bois qui semble être bien placé pour lier la charpente au mur aura une autre mission. Donc on pourrait se regarder et dire, bon, c'est fait, ils ont gagné, ils ont réussi, c'est terminé. Mais attention, ce qu'ils appellent leur réussite parlera peut-être pour les condamner. Regardez le verset 13. Il dit, voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Vous savez, j'imagine que les Babyloniens sont connus pour leur architecture et pour leurs murailles, pour leurs jardins flottants suspendus. Aujourd'hui, on trouve ce qui reste dans les musées gérés par d'autres États, tels que la France ou l'Allemagne. C'est un peu rigolo, non ? Toutes ces années, tout ce travail, toutes ces guerres, toutes ces luttes pour que quelques touristes puissent regarder rapidement dans le Louvre en se dirigeant pour voir la Joconde. C'est tout ce qui reste. Ils ont travaillé tout ce travail pour le feu. Pour rien. Et donc nous voyons que la malédiction sera inévitable. Ce que nous voyons aujourd'hui, mes amis, n'est pas la fin. Il faut se rappeler, ce n'est pas la fin. On a dit, le mal a réussi. Ah non, on n'est pas encore à la fin. Et nous voyons aussi que la malédiction sera équitable. Il dit cela d'une... Regardez le verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, c'est contre toi-même que tu as péché. C'est contre toi-même que tu as péché. C'est-à-dire Dieu promet une rétribution équitable et juste. Le péché finit par retomber sur toi. Quand tu pèches contre les autres, en fin de compte, quand Dieu juge, ce péché retombera sur toi. Le Darby dit, tu as péché contre ta propre âme. Alors sachez que la malédiction de Dieu est aussi réelle que sa bénédiction, que son jugement est un phénomène aussi sûr que son salut, que sa colère sera ressentie par certains aussi certainement que sa grâce sera connue par d'autres. On ne peut pas prêcher ce chapitre sans parler du jugement de Dieu et de la malédiction de Dieu. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de salut. Le salut ne veut rien dire. Mais la Bible dit en psaume 9 que Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Alors si nous ne croyons pas dans la haine, dans la colère de Dieu, dans le jugement de Dieu, ben nous ne croyons pas dans l'enfer. Parce que qu'est-ce que c'est l'enfer que la colère et la haine de Dieu contre le pécheur? Et si Dieu n'est en colère contre personne, ben l'enfer est un mythe. comme diraient certains d'ailleurs. Mais Romains 1, 18 nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Romains 2 nous dit, je l'ai pas Romains 2 mais je vais vous le lire, que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais, écoutez ceci, l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et puis Apocalypse 6, qui me donne des frissons. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et se disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de qui ?» La colère de l'agneau. Deux idées qui ne semblent pas aller ensemble. La colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Quelle image, la colère de l'agneau. Certains, peut-être même ici, vont voir un jour le visage de notre Seigneur Jésus, car la Bible dit que tout genou fléchira, n'est-ce pas? Mais ce sera un visage rempli de colère. Imaginez cela, celui qui était votre seul espoir, « Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. » Celui qui était, pendant cette vie, notre seul espoir, devient notre pire ennemi. Effectivement, Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Et la Bible dit qu'à ce jour, toute bouche sera fermée et tout le monde va se reconnaître coupable devant Dieu. Alors nous voyons... Je ne veux pas rester sur cela, mais mes amis, l'évangile n'est pas une bonne nouvelle s'il n'y a pas la colère de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous sauve de la colère de Dieu. Nous voyons aussi dans ce chapitre que la victoire sera complète. Et là, c'est beaucoup plus heureux. Regardez le verset 13 et 14 ensemble. « Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, c'est-à-dire quand il décide, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. » Ça, c'est ce qui se passe dans l'histoire du monde. « Car, verset 14, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par des eaux qui le couvrent. » Alors, vous savez que le fond de la mer est très, très profond. Il y a beaucoup d'eau. Et un jour, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. Et notez le lien entre les versets 13 et 14 avec ce mot « car ». Les nations, verset 13, travaillent si dur pour leur propre gloire. En fait, c'est un peu ce qu'il dit. Ils travaillent très dur pour leur propre gloire. Pensez à la tour de Babel. Pensez aux présidents, comme les rois, les présidents ne sont pas mieux, ils veulent construire quelque chose qui portera un jour leur nom. Mais en fin de compte, tous leurs efforts sont en vain. En vain. Pourquoi? Car c'est la gloire de Dieu, non pas leur propre gloire, qui va remplir la terre. C'est ça le lien. Ils ne vont pas pouvoir réussir en fin de compte parce que c'est la gloire de Dieu qui va gagner en fin de compte. C'est la gloire de Dieu qui va remplir la terre. Alors tout ce qu'ils font n'aura aucun effet permanent. C'est en fait ce qu'il nous dit. Tout ce qu'ils font n'aura aucun effet. Ne vous inquiétez pas, il n'aura aucun effet permanent. Ils peuvent passer des milliers d'années à passer des réformes et construire des édifices. À la fin... ça sera la gloire de Dieu qui couvre la terre. Ça nous donne de la joie, n'est-ce pas? Ils peuvent passer des milliers d'années. À la fin, c'est la gloire de Dieu. Pas la gloire d'Égypte, pas la gloire de France, pas la gloire d'aucun autre pays, aucun autre roi ou président ou homme. C'est la gloire de Dieu qui va recouvrir la terre. Ça nous remplit de joie. Mais ce n'est pas encore arrivé. Nous l'attendons toujours. Moi, je pense qu'il parle ici du règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il sera roi ici sur terre. Et la Bible dit que toutes les nations viendront à lui. Et c'est sûr et c'est certain que cela arrivera. Il a dit au début, attends-le. Cela arrivera, attends-le. Nous allons regarder demain de plus près ces premiers versets. Et puis finalement, ce très beau thème, que le juste vivra par la foi. Il faudra revenir au verset 4 pour retrouver cette petite phrase que nous avons sautée tout à l'heure. Et c'est intéressant qu'en termes de taille, elle est minuscule. Mais en termes d'importance, elle est gigantesque. Trois fois cette phrase sera répétée dans le Nouveau Testament. Galates, en Romains et en Hébreux. Et notons pour l'instant cette distinction, cette division, ce contraste catégorique, contraste très clair et capital qu'il fait, parce qu'il est en train de décrire, en fait, l'injuste, l'orgueilleux. Vous voyez ça au verset 4 ? Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Et puis au verset 5, il continue sa description. Mais là, entre parenthèses, j'aime bien, il y a des traductions qui mettent un trait, parce que ça nous montre qu'il parle d'autre chose juste pour cette petite phrase, et puis il revient au sujet principal. Donc le sujet principal des versets 4 et 5, c'est celui qui sera maudit, en fait, dans les versets 6 et suivants. Il décrit celui qui sera maudit. Mais là, au beau milieu de cette description de celui qui sera maudit, il décrit celui qui vivra. Et donc, il y a cette parenthèse, un contraste, un rayon d'espoir. Je vous dis, c'est comme les rayons qui tombent, comme une explosion de lumière entre toutes ces ténèbres. Et c'est à ceci qu'Habacuc va s'accrocher dans le chapitre suivant. Le juste, il dit, vivra. Il vivra. Alors, quel est le contexte de cette promesse de vie? Quand vivra-t-il? Le contexte est celui de la malédiction de Babylone. Ceux qui vivent d'une manière injuste. Mais au jour de la malédiction du méchant, le juste vivra. Et même en termes, si vous voulez, de pourcentage de notre vie, vous pouvez avoir une vie qui est pleine d'angoisse. Si vous avez cette petite phrase, vous pouvez tenir bon jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est tout ce qu'il faut. Cette petite phrase, le juste vivra. Il vivra. Malédiction sur malédiction, malheur sur malheur, 5 fois c'est répété, malheur, malheur, malheur. Ils vont mourir, ils vont périr, mais le juste vivra. Ça, c'est le rayon d'espoir. Ça, c'est la grâce dans l'angoisse. Et comment vivra-t-il? Comment vivra-t-il? Par ses efforts? Par sa sainteté? Par le fait qu'il est toujours stable? Oui ou non? J'espère que vous savez déjà la réponse. Le juste vivra par la foi. La foi, donc, n'est pas un petit plus qu'on ajoute à nos vies de chrétiens. La foi est essentielle pour vivre en tant que chrétien. Celui qu'il vient Dieu doit quoi? Il doit croire. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais le juste vivra par la foi. Alors, Dieu voulant, demain, nous allons considérer encore ce verset et la réponse qu'Habacuc a eue à ce que Dieu a dit. Mais je trouve que ce chapitre englobe l'histoire humaine. C'est encore bon pour notre temps. Ce que Dieu dit, certains, l'orgueilleux sera un jour maudit. À la fin, lisez Apocalypse, c'est qui gagnera? C'est Dieu qui gagnera? Mais il a choisi de partager sa victoire. C'est-à-dire, il y aura des gens qui partagent la victoire avec Dieu. Il y a des gens qui vont régner avec Jésus-Christ. C'est qui ces gens? C'est ceux qui vivent par la foi en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ce don de la foi. Nous savons que cela ne vient pas de nous-mêmes, c'est le don de Dieu. Et donc nous te demandons tout simplement de nous donner à tous et à toutes cette foi en toi et en Christ.